Il a été négocié avec beaucoup, beaucoup de sérieux et de technique depuis 4 ans. Tout a été prévu dans cet accord. C'est dans le cadre d'une négociation de ce genre, l'une des plus accomplies dans le monde. Et l'accord a été satisfait chacun, au sens où chacun était convaincu, le gouvernement, qu'on ne pouvait pas venir à bout par la force des FARC, qu'elles n'avaient pas d'avenir et qu'elles avaient perdu beaucoup de leur implantation militaire et de leur prestige politique. Dans ces conditions, l'accord était la seule perspective. Cet accord est extrêmement détaillé. C'est un accord exceptionnel en sens où, premièrement, au fur et à mesure des négociations, il a bénéficié de plus en plus d'un accord international, Nations Unies, Vatican, présence d'un représentant des États-Unis. Il a été négocié en présence de généraux de premier poids, ainsi que en présence de la plupart des commandants importants de la guérilla qui se sont relayés aux côtés des négociateurs à Cuba. Et c'est un accord donc qui prévoit avec beaucoup de précision les lieux dans lesquels les FARC vont devoir se concentrer, le délai et le contrôle par les Nations Unies du processus de désarmement. C'est un accord qui, d'autre part, convient aux deux parties, en sens qu'il a prévu un certain nombre de transformations essentielles, de modernisation de l'agriculture et de participation politique des partis d'opposition et des FARC, etc. Je sais dire que c'est un accord extrêmement important, extrêmement complet.
Et pourtant, il y a de nombreuses critiques du côté des partis, notamment de la droite de Colombie, vis-à-vis de cet accord, notamment sur la question de l'impunité vis-à-vis des chefs des FARC. Pourquoi est-ce qu'il y a ces critiques qui continuent d'intervenir alors qu'on est dans un processus qui est sur la fin?
Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a l'extrême droite représentée par l'ancien président Uribe, qui reste extrêmement populaire, qui a été l'homme qui, de manière complexe, avec l'aide des États-Unis, avec l'aide des paramilitaires, a réussi à diminuer la présence politique des FARC, et donc lui a toujours dit qu'il ne pouvait pas approuver cet accord, et en mettant en avant effectivement le thème de l'impunité, en réalité l'accord prévoit un système de justice transitionnelle, c'est satisfaisant en principe au requisite de la justice internationale, c'est-à-dire accordant, oui, éventuellement une impunité pour les combattants de base, mais les combattants importants, responsables de crimes considérables, de crimes contre l'humanité, ou d'être impliqués comme dans les enlèvements, dans le narcotrafic, etc., seront condamnés dès lors que, devant la justice pour la paix qui sont en train d'être conformés, ils ne reconnaîtront pas leurs responsabilités. Et donc, il ne s'agit pas d'impunité. Les responsables qui ne reconnaîtraient pas leurs crimes seraient condamnés à des lourdes peines. Ceux qui reconnaîtraient leurs crimes seraient condamnés à des peines aménagées de 7 ans ou 8 ans. Dans le cadre d'une négociation, l'enjeu, c'est bien la restauration de la paix après des décennies de problèmes et de violences, etc. Il n'est pas étonnant que l'accord ne puisse pas être d'une justice comme la justice pénale.
La prochaine étape, c'est le référendum pour faire entrer en vigueur cet accord. Quelle est la position du peuple colombien sur ce texte?
L'opinion publique est très remontée contre les FARC, parce que pendant toutes les négociations, les FARC n'ont absolument pas reconnu leur responsabilité dans le phénomène de la violence. Et c'est la raison pour laquelle l'ancien président Uribe et l'extrême droite colombienne bénéficier d'une certaine tolérance, appui de la part d'une partie de l'opinion qui n'entend pas et est très révoltée contre l'idée que les chefs de FARC ne pourraient pas être condamnés à des peines de prison, et encore plus contre l'idée qu'ils pourraient participer rapidement aux activités politiques. Cela dit, ce n'est qu'une étape, puisque le désarmement des FARC doit se faire dans un délai de 6 mois sous contrôle des Nations Unies, puisque ensuite, il va y avoir tous les problèmes de mise en application des clauses de l'accord, et qui suppose un financement extrêmement important, non seulement pour la démobilisation des guerriers, mais surtout pour réparer les victimes qui actuellement ont des dossiers comme victimes déjà plus de 600 000 personnes, mais il y a 7 millions de Colombiens qui ont été victimes de manière ou d'une autre du conflit. Ce sont des investissements extrêmement considérables qui doivent être faits, et cela dans une conjoncture où en Colombie, moins que dans d'autres pays en Amérique latine, mais quand même de manière considérable, la conjoncture économique n'est pas favorable. Les prix des matières premières, notamment du pétrole, ont baissé aussi, et la Colombie est un pays exportateur. Il restera un problème aussi important que le problème des cultures de drogue, puisqu'il se trouve que depuis 3 ans, on estime que les cultures de drogue ont de nouveau ont augmenté de plus de 2 fois ou quelque chose comme ça. Et dès lors, tout le problème est de savoir dans quelle mesure soit des groupes mafieux, soit des groupes dissidents, des guérillas démobilisés, ne vont pas essayer de prendre le contrôle de ces cultures illégales. Et ainsi que d'ailleurs, pas simplement la drogue, mais aussi les mines d'or, etc. Donc c'est un défi qui suppose que l'État colombien soit capable rapidement de se rendre présent dans beaucoup de zones périphériques du pays qui jusqu'alors ont échappé complètement à son contrôle.
Donc c'est un accord qui est signé mais qui n'est pas prêt d'être appliqué.
Même ceux qui l'ont négocié disent que de toute façon, il faut compter au moins 10 ans et c'est un délai qui sera certainement insuffisant pour essayer de faire les transformations impliquées par l'accord.